Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Urbaflore, émission dédiée aux plantes sauvages, menacées et protégées, dont l'un des objectifs est d'en parler pour mieux les connaître, connaître leur univers, leurs particularités, le monde dans lequel elles vivent et que l'on partage quotidiennement avec elles. Je vous propose d'écouter et de répondre à plusieurs questions d'enfants qui s'interrogent sur la biodiversité et la flore, mais pas que. Du CE2 au CM2, je voulais vivement remercier ces curieux de la vie, ainsi que leurs maîtresses Audrey et Ingrid, de s'être prêtées à cet exercice dans une période et un temps d'apprentissage où la biodiversité et sa préservation sont un sujet riche et central, aujourd'hui et pour demain.
Et le tout dans cette émission Urbaflore. Urbaflore, l'émission du Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, animée chaque mois sur CFM Quélus par Jérôme Garcia. Bonjour Jérôme.
Bonjour Lisa et bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, on va essayer d'en savoir plus sur les fleurs. Et donc, on ouvre le bal avec cette première question.
À quoi servent les fleurs ?
C'est une question essentielle pour les plantes et pour démarrer cette émission. Merci de la poser. Avant de répondre précisément, il est important de faire un point sur ce qui compose une fleur, sur ce qu'on appelle son anatomie. Curieux, comme toi, j'ai toujours tendance à vouloir décortiquer les choses pour savoir comment elles sont faites et comment elles fonctionnent. Bref, si on décompose différentes parties de la fleur, on va généralement trouver de l'extérieur vers le cœur de la fleur, d'abord les sépales, qui composent le calice, les pétales, qui sont organisés en une corolle, et je précise que pétales et sépales sont des noms masculins. Moi, je fais l'erreur aussi parfois. Ensuite, il y a les étamines, qui constituent l'androcée, hein, ce sont les organes mâles qui produisent notamment le pollen, et puis, au cœur de la fleur, on va trouver le pistil, c'est-à-dire le gynécée, qui correspond à l'organe femelle, dans lequel on va trouver des ovules, et en général, ces ovules sont dans des ovaires qui sont prolongés, on va dire, par des stigmates, qui est la surface réceptrice du pollen. Pour en revenir à ta question, à quoi servent les fleurs ? Elles ont plusieurs fonctions qui sont liées. Le premier point, c'est que les fleurs participent à la reproduction des plantes et vont lui permettre de produire des graines. La plante, elle est généralement, comme tu le sais, fixée sur un support et elle ne bouge pas, comme les animaux. La graine, c'est le moyen pour les plantes d'être transportée. Alors, elle peut être transportée, la graine ou le fruit, hein, par le vent, l'eau ou les animaux. Et la graine, donc, comme je l'ai indiqué, se trouve dans le fruit, à condition que la fleur soit pollinisée. Car la fleur, c'est l'organe de reproduction sexuée des plantes et qui fait appel donc à des éléments mâles, le pollen, et à des éléments femelles, le pistil. La fleur, elle participe ainsi à diversifier les gènes au sein d'une espèce de plante. Le deuxième point, les fleurs, elles sont aussi intéressantes pour les animaux. Je ne parle pas des limaces et des escargots ou des vaches qui s'en régalent en les mangeant, je parle plutôt des pollinisateurs. Il s'agit alors d'interactions qu'on dit à bénéfice réciproque ou mutualisme. On parle même de coévolution. Alors oui, c'est bien compliqué dit comme ça, mais je vais m'expliquer. Coévoluer, ça veut dire évoluer avec, grandir avec, passer des étapes ensemble, s'entraider les uns les autres pour que nous et nos enfants puissions survivre. La pollinisation, c'est une histoire fabuleuse entre les plantes et les animaux qui a démarré il y a environ 250 millions d'années, donc bien avant toi et moi, et bien avant papy et mamie. Enfin, pour les humains, les êtres humains, la fleur, elle est essentielle. Elle sert de médicament pour faire des tisanes, de la parfumerie, pour des aspects cosmétiques et esthétiques, et surtout pour avoir des fruits et des graines qu'on va manger.
Et justement, on a une question qui vient compléter la précédente.
Bonjour, j'ai 10 ans. Je me demande comment les végétaux font-ils pour se reproduire entre eux.
Interrogation très intéressante, merci de l'avoir partagée. Alors, les végétaux, ils ont plusieurs manières de se reproduire. Grâce aux fleurs, comme on vient de le voir, avec la pollinisation, hein, par le vent, les insectes, les oiseaux, ou les humains. Il faut savoir par exemple que la vanille, qui est une orchidée, une liane, elle a un pollinisateur qui est très localisé. Et on a cultivé la vanille dans d'autres pays que son pays d'origine. Et pour pouvoir avoir des gousses de vanille, et ben ce sont les humains qui font la pollinisation avec leurs mains. Donc, grâce aux fleurs, les végétaux peuvent se reproduire. C'est ce qu'on appelle donc la reproduction sexuée, hein, qui est le moteur de la diversité génétique. et qui permet aux plantes de s'adapter aux changements de leur environnement. Les plantes, elles sont aussi spécialistes du clonage. Elle va produire des individus qui ont le patrimoine génétique qui est identique à celui de la plante mère. C'est ce qu'on appelle la reproduction asexuée, c'est-à-dire asexuée, ça veut dire sans faire intervenir les parties sexuelles de la plante. Ça se fait par division de bulbes, par la production de bulbilles, par production d'organes de réserve, hein, comme la pomme de terre. Chaque pomme de terre, finalement, issue d'un pied mère, a le même patrimoine génétique, hein, ce sont des clones. Ça peut se faire par stolon, c'est ce que fait notamment le fraisier, par marcottage de tiges en touchant le sol, hein, c'est le cas du figuier. Le figuier va produire des longues tiges qui, au contact du sol, vont produire de nouvelles racines et on aura un nouvel individu de figuier qui est identique au pied mère, d'un point de vue génétique. Il peut y avoir aussi la production de drageons, hein, qui sont des tiges ou des racines souterraines. C'est le cas, par exemple, de certains rosiers. Le robinier faux acacia fait ça. Le bambou aussi se reproduit de façon asexuée, voilà, en créant des clones. Et ensuite, une autre manière de se reproduire des végétaux, c'est l'intervention humaine. L'homme va reproduire certaines plantes par rapport à des qualités alimentaires ou esthétiques, en réalisant ce qu'on appelle de la sélection, ou de la sélection contrôlée, en fait. Il va créer des nouvelles variétés en faisant des mélanges ou des hybridations entre des espèces proches avec certaines qualités. Et puis, il pratique aussi la greffe. Il associe deux plantes différentes pour en créer une avec, encore une fois, un porte-greffe et un greffon, et le greffon avec peut-être des fruits d'une certaine taille ou d'un certain goût. Et enfin, récemment, enfin ça commence à dater maintenant, l'homme il a multiplié les végétaux en créant ce qu'on appelle des organismes génétiquement modifiés, des OGM. C'est le cas du maïs, hein. Il a pris une particularité d'une bactérie, il a pris une partie d'ADN de cette bactérie et il a injecté dans des cellules de maïs pour que les cellules de maïs produisent des composés qui vont lui permettre de lutter contre la pyrale du maïs. Donc en fait, c'est une association maïs-bactéries pour lutter contre un papillon qui mange normalement le maïs. Voilà, donc il a créé un organisme génétiquement modifié. Allez, je vous propose de faire une petite pause musicale et on va écouter Cool End de Deria Yildirim et groupe Simsek.
Beating
De retour dans l'émission Urbaflore, l'émission du Conservatoire botanique national des Pyrénées de Midi-Pyrénées que nous propose Jérôme Garcia et où on parle de fleurs dans cette émission. Et ce sont les enfants du CE2 au CM2 qui posent les questions.
J'aimerais savoir pourquoi les fleurs ont-elles des pétales ?
Mais oui, tiens, pourquoi ? Merci pour cette question très pertinente, je vais te répondre. Dans la diversité de la vie végétale, il faut avoir en tête qu'il existe une diversité de formes de fleurs et que cette diversité de formes, il y a des fleurs avec et d'autres sans pétales. Oui, oui, il existe des fleurs sans pétales, ça existe. On dit même qu'elles sont apétales, aprivatif. Hein, tu as dû voir les préfixes et les suffixes. Apétale, ça veut dire sans pétales. C'est le cas notamment de la fleur du noyer, du noisetier, du saule pleureur, du bouleau et des graminées. Les graminées, c'est les herbes que tu peux avoir dans une pelouse ou dans une prairie. En général, ces fleurs-là, elles n'attirent pas les insectes du coup. Et c'est le vent qui va assurer la pollinisation, le transport du pollen vers les stigmates des parties femelles de la fleur. Les fleurs à pétales, justement, elles produisent beaucoup de pollen. Et en général, les stigmates, qui est donc l'organe récepteur femelle, il est plumeux ou très développé pour pouvoir capter, comme des espèces de filets à papillons. Là, c'est des filets à pollen qui est dans l'air. Et d'ailleurs, ce pollen, on en est souvent allergique. Il y a aussi des fleurs, dont les fleurs possèdent des pétales et des sépales qui sont identiques. On ne va pas pouvoir faire la différence entre les deux. La forme et la couleur sont les mêmes et on va appeler ça des tépales. C'est un nouveau terme du coup. Et tu peux voir ça simplement sur les fleurs de tulipes. Tu vois pas de distinction entre des pétales et des sépales. Tu vas voir ça aussi chez les lys, la jacinthe ou même chez les fleurs d'ail. Sinon, il y a effectivement des fleurs avec des pétales qui prennent des formes là encore très variées. Les pétales peuvent être libres les uns par rapport aux autres. C'est la fleur classique du pommier, du cerisier, du prunier ou du tilleul. Ou ces pétales peuvent être soudés, comme celle par exemple, je ne sais pas si tu connais le mufflier ou la gueule de loup, le liseron, la belle de jour ou la campanule. Ça forme des espèces de cloches où les pétales finalement sont soudés à leur base ou complètement les uns aux autres. Bon, malgré quelques indices, ces explications ne répondent pas vraiment à ta question qui est de savoir pourquoi les fleurs ont des pétales. En fait, on a observé que les pétales, ouverts, épanouis, permettent d'attirer les pollinisateurs et de les guider vers un point particulier de la fleur. Ça correspond à une sorte de piste d'atterrissage. En général, les pollinisateurs sont guidés dans la fleur vers le pollen, le pistil, ou le nectar. Le nectar, c'est un liquide sucré qui peut être produit par des pétales spécialisés qui possèdent ce qu'on appelle des glandes à nectar ou nectaire. Les pétales, avant de s'ouvrir, assurent aussi la protection des organes reproducteurs. Je ne sais pas si tu te souviens, je t'avais expliqué que dans l'organisation de la fleur, de l'extérieur vers l'intérieur, on avait les sépales, les pétales, les étamines avec le pollen et ensuite la partie centrale, le pistil, voilà. Donc les pétales, elles protègent les organes reproducteurs qui sont au centre de la fleur. Ça peut être une barrière contre la pluie, le vent, les insectes prédateurs ou même les maladies. Il faut aussi savoir que chez certaines plantes, les fleurs ont des pétales qui attirent des pollinisateurs, des insectes pollinisateurs ou même des oiseaux pollinisateurs qui sont très spécifiques. J'ai en tête une orchidée tropicale qui possède un pétale très spécial, un pétale qui est allongé en forme de tube dans lequel il y a du nectar que seule une espèce de grand papillon peut boire. Alors, il faut savoir que ce papillon possède une trompe. Cette trompe, elle est bien sûr plus fine que celle d'un éléphant, je te rassure. Et cette trompe, ce tube, cette espèce d'aspirateur, il mesure justement jusqu'à une trentaine de centimètres de long, c'est énorme. Et lui seul peut réussir à siroter ce nectar qui est présent donc dans ce pétale allongé d'orchidée. Et c'est le seul qui peut polliniser cette orchidée du coup. Voilà, donc le papillon en allant de fleur en fleur, en allant boire le nectar dans ce pétale transformé, dans ce pétale très long, il va siroter le nectar et en même temps il va se charger en pollen, qu'il va déposer sur les parties femelles d'une autre fleur d'orchidée. Voilà, et là on a un exemple parfait justement de coévolution. Tu te souviens, donc coévoluer, ça veut dire évoluer avec et grâce à l'autre. C'est aussi quelque chose de très fragile, car si le papillon disparaît, l'orchidée ne peut plus se reproduire et peut elle aussi disparaître. Autre point, il faut savoir que les fleurs, elles peuvent s'ouvrir ou dégager des odeurs attractives à différentes heures du jour ou de la nuit. Et elles vont attirer différents pollinisateurs qui sont actifs le matin, en journée, le soir ou même la nuit. On a pour ça justement des papillons de nuit, des mouches ou des chauves-souris. Alors en général, les chauves-souris, c'est plutôt en milieu tropicaux qu'on va aller voir pour qu'ils vont aller polliniser des fleurs d'espèces tropicales. Et pour compléter encore ma réponse, écoutons la suite des questions.
Et ce sont les dernières interrogations qui viendront clore cette émission.
Bonjour, j'ai 10 ans. Je me demande, comment les fleurs prennent de la couleur ?
Pourquoi les fleurs ont plusieurs couleurs ?
Merci à vous, je vais tenter de vous éclaircir les idées à ce sujet. Dans l'organisation de la fleur, dans son anatomie, on a donc de l'extérieur vers le cœur, les sépales, hein, qui sont souvent les parties vertes de la fleur. On a ensuite les pétales, qui sont souvent colorés, puis les étamines avec le pollen, et enfin le pistil au centre. Dans la nature, chaque espèce de plante a une couleur qui est stable de fleur. Hein. Elle est soit rouge, comme celle du coquelicot, violette, comme la menthe, jaune, comme les fleurs du tournesol, orange, comme le souci, bleu, comme le bleuet, ou multicolore, comme certaines espèces d'orchidées, ou la pensée, par exemple. Et ça permet d'ailleurs aux botanistes de bien pouvoir les identifier et de les différencier. Comme fleurs ne bougent pas, sauf s'il y a du vent bien sûr, et que les animaux, eux, se déplacent, il s'est passé quelque chose il y a très longtemps qui a fait que certains animaux se sont intéressés aux fleurs et que certaines fleurs se sont intéressées aux animaux. Il est probable que certains animaux ont commencé par manger des fleurs et en allant d'une fleur à l'autre, ont transporté accidentellement du pollen, qui est bien pratique pour une fleur immobile. Et avec le temps, les fleurs et les insectes sont devenus copains. Et pour faciliter la vie, les fleurs ont fabriqué des repères, des odeurs, des formes, des motifs et des couleurs pour qu'en volant à la recherche de nourriture, de nectar ou de pollen, les insectes sachent où aller et où atterrir. Pour en revenir à ta question donc, la couleur des fleurs, c'est un signal visuel pour attirer tel ou tel pollinisateur et leur dire « Par là, il y a à manger pour toi, et ici, de la place pour te poser. » Et je ne sais pas si tu le savais, mais les bourdons et les abeilles ne perçoivent pas les mêmes couleurs que les humains. Ils voient les ultraviolets. Or donc, certaines fleurs sont capables de renvoyer des ultraviolets que seuls les abeilles et les bourdons peuvent détecter, et ça permet donc d'attirer ces insectes vers cette fleur. Il y a aussi des pétales qui peuvent changer de couleur en fonction de leur âge, en fonction de la maturité de la fleur, hein, si elle est ouverte depuis peu de temps ou depuis un certain temps. C'est le cas par exemple de la pulmonaire, quand les fleurs sont jeunes, elles sont plutôt roses, et ensuite elles deviennent bleues quand elles sont plutôt vieilles. C'est une réaction chimique en fait, qui se passe dans les pétales de la fleur qui en est la cause et qui indique finalement au pollinisateur le bon moment pour venir boire le nectar ou prévenir justement que la fleur elle est déjà pollinisée. C'est pas la peine qu'ils viennent du coup. Dans mon travail, je cherche à faire en sorte que les plantes rares puissent produire des fleurs et des graines. Ça permet d'avoir un mélange de gènes hein, pour que les prochaines générations de plantes elles soient capables de s'adapter à un environnement qui change et cet environnement d'ailleurs que leurs parents ont supporté, hein, soit un froid, des chaleurs, des sécheresses, des virus ou des maladies, par exemple. Les plantes qui sont les mieux adaptées à ces conditions vont finalement transmettre leur résistance à leurs enfants. Mais pour ça, il faut leur laisser du temps. Fabriquer des graines, c'est un mécanisme qui est long et qui est complexe. Et tu peux voir ça avec les fruits et les légumes que tu manges au cours de l'année. Il y a une saison idéale pour chaque fruit. En été, en général, en France métropolitaine, il y en a beaucoup plus qu'en hiver. Au printemps, tu auras par exemple des fraises, en début d'été, des cerises. Ensuite, en été, tu auras les courgettes, les tomates, les figues en automne, ainsi que le raisin, les citrouilles, les pommes, les poires, les kiwis. Et en hiver, tu auras quelques pommes, des noisettes et des noix, et d'autres, qui seront conservées au sec ou au froid pour pour les avoir plus longtemps. Mais ça, c'est une autre histoire. Ainsi s'achève cette émission Urbaflore dédiée aux questions d'enfants sur les fleurs. Je vous propose de nous retrouver le mois prochain avec de nouvelles interrogations, toujours aussi riches et pertinentes, auxquelles j'essaierai d'apporter des réponses. On parlera des plantes et de l'eau. Merci encore à nos jeunes avides de savoir d'avoir partagé leurs questions sur le monde fascinant du végétal et de la biodiversité. Ouvrez l'œil, restez curieux et continuez à vous interroger et à échanger.
Merci Jérôme.
Merci Lisa.
Au mois prochain. Et on peut retrouver toutes ces émissions Urbaflore sur le site cfmradio.fr. Urbaflore, c'est l'émission du Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées.